Bonjour Gérard de Cortanze.
Bonjour.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. Alors d'abord, on aimerait savoir comment est venu cet amour pour les mots, puisque vous êtes romancier, essayiste, traducteur, dramaturge et critique littéraire.
Alors là, il va falloir faire 25 émissions avec moi pour vous expliquer et répondre à votre question. Je viens d'une famille italienne immigrée, classe ouvrière, bandit de grand chemin, Fra Diavolo qui a lutté contre les troupes de Bonaparte du côté de ma mère. Immigration italienne piémontaise du côté du père, avec une très vieille famille d'aristocratie italienne très proche de la maison de Savoie, une enfance très solitaire, déclassée dans une banlieue d'immédiate après-guerre, la découverte de la nécessité de la littérature pour survivre. Grâce à plusieurs publications complètement hétéroclites, liées à des interdictions pour certaines, c'est-à-dire la lecture du Petit Parisien, qui était le journal auquel que lisait mon grand-père, mais que les enfants n'avaient pas le droit de lire, Nous deux, les romans photos, que mes tantes et ma grand-mère lisaient, et puis surtout ce qu'on appelle les pubs dans un petit cozy corner, c'est-à-dire un petit meuble qui entourait le lit. La bibliothèque Nelson, complètement disparate. J'ai jamais compris comment les livres qui étaient là appartenaient à mes grands-parents. Un livre de Marinetti, Les Trois Contes de Flaubert, un livre de Gracia Deledda, c'est une écrivaine sarde qui a eu le prix Nobel de littérature en 1924, une biographie de Louis XIV et quelques contes de Maupassant. Et vraiment, le plaisir des mots, de la langue et la nécessité de l'écriture est né de cette faille d'enfance, c'est-à-dire que pour survivre, je n'ai trouvé que la lecture et l'écriture. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, à tort raison d'ailleurs, que j'étais sur Terre pour écrire l'histoire de ma famille, qui disparaîtrait si je n'écrivais pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ah, c'est juste très très clair, mais en tout cas un panorama de lecture et d'auteur très éclectique, hein, c'est sûr. Et puis là, on va évoquer Ernest Hemingway, puisque c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui, Gérard de Cortanze. Votre actualité, c'est « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer », hein. C'est votre livre, hein, qui est paru le 18 septembre 2024 aux éditions Albin Michel. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi et comment est venue l'envie d'écrire ce livre, qui est donc un roman de 320 pages et qui évoque les derniers jours de la vie d'Ernest Hemingway?
Alors, j'ai découvert Hemingway lors de mon adolescence. Je n'ai cessé depuis, avec Giono d'ailleurs et quelques autres, de le lire et de le relire. J'ai déjà écrit deux livres sur Hemingway. Le premier qui était Hemingway à Cuba et le deuxième s'appelait Le roman d'Hemingway où j'étudiais les liens entre l'œuvre et l'homme. Et j'avais envie d'écrire un livre qui resitue un peu Hemingway dans son temps, qui le décrase des clichés dont on l'affuble. C'est une curieuse destinée, Hemingway. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très très connu. Tout le monde connaît le nom d'Hemingway. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, aujourd'hui en tout cas, l'aient lu. Certains ont lu Le vieil homme et la mer parce qu'on le lit dans les lycées et les collèges. Mais de toute façon, on a une image d'Hemingway qui était tellement fausse. C'est-à-dire, c'est le boxeur, le bagarreur, l'ivrogne, le chasseur en Afrique, l'amoureux de Corrida, etc. Or, je voulais montrer un Hemingway qui ne soit pas cette marionnette qu'il avait fabriquée et envoyée, comment dire, en avant de façon à pouvoir pratiquer ce qui lui semblait l'essentiel dans sa vie. Il n'a cessé de le répéter, à savoir, l'écriture est une chose sérieuse. Oui. Je voulais parler de cet écrivain-là et de la dernière année de sa vie. On est en juillet 60, il va se suicider en juillet 61, à peine un an plus tard. Je voulais raconter cette tyrannie du temps qui passe, cette déchéance de l'écrivain chez quelqu'un qui a été toute sa vie poursuivi par le FBI. Alors, vous savez, Hemingway, on en a fait une sorte de paranoïaque. Il était paranoïaque. Mais ce qui est vrai, c'est que le FBI, il a poursuivi toute sa vie, depuis son engagement auprès des républicains espagnols en 1936, il était considéré comme un communiste avec un couteau entre les dents, chose qu'il n'était absolument pas. Il était considéré comme un castriste, chose qu'il n'était absolument pas. En revanche, c'est vrai, il était férocement antifasciste. Mais le Hemingway, le FBI, à partir de 1936, donc durant toute la vie pratiquement de Hemingway, l'a poursuivi, l'a mis sur table d'écoute, envoyé des hommes pour le poursuivre, pour le suivre, ouvrait son courrier. Donc je pense que dans la mort d'Hemingway, ce harcèlement n'est pas innocent. Il y a une part de cette mort par suicide qui est sans doute due à ce harcèlement, ça c'est la théorie du livre. Et la deuxième partie, c'est la séance, la double séance d'électrochoc qu'il a suivie à quelques mois d'intervalle, peu de temps avant sa mort. Et on n'a jamais parlé de cette dernière partie de sa vie, c'est-à-dire au moment où il quitte Cuba, qui est la terre où il se sent bien, où il a écrit la majorité de son œuvre. Si on ne sait pas qu'Hemingway a vécu la majorité de son temps à Cuba, on ne comprend rien à l'œuvre d'Hemingway. Hemingway est un écrivain du Sud. Il a parlé de l'Afrique, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, bien entendu, de Venise. Il parle très très peu des États-Unis. Et lors de ces séances d'électrochoc, il s'aperçoit tout simplement qu'il y a évidemment un agent du FBI qui est à l'intérieur même de la clinique. Ça, ce n'est pas du tout une invention d'auteur, c'est la réalité. Et la description des séances d'électrochocs sont absolument terribles. Et il explique qu'au sortir de ces séances, il se retrouve en enfer, il a perdu la mémoire, le goût d'écrire, le goût de penser, le goût de vivre. Il se rend complètement compte de ce qui est en train de lui arriver. Je voulais décrire cette chose-là. C'est pour ça que j'ai mis comment dire, en exergue une citation qui est extraite d'un de ses livres, que je trouve d'une nostalgie, d'une tristesse sans nom, mais qui donne exactement la tonalité du livre. Il dit, au fond, que reste-t-il d'une vie à la fin d'une vie? Une nuit d'été en Italie, quelques notes de musique, un sourire échangé, une page d'un livre, un poème, une faute avouée, un remords. Je trouve ça terrible, cette phrase.
Ouais, c'est vrai. Et dans votre livre aussi, Gérard de Cortance, donc bien sûr, vous évoquez Ernest Hemingway. C'est vrai qu'il a été un écrivain qui a marqué son siècle, puisqu'il a vu différents événements, les deux guerres mondiales, la guerre d'Espagne.
Voilà, la guerre de 14.
La guerre de 14, oui, c'est ça. Et l'arrivée de Fidel Castro donc à Cuba. Donc justement, c'est aussi cela que vous avez souhaité montrer dans ce livre, parce que voilà, c'était vraiment un écrivain qui a marqué son siècle, puisqu'on rappelle aussi qu'il a été prix Nobel de littérature.
Oui, et c'est quelqu'un qui est de son siècle et dans son siècle.
Oui.
Il dit une chose qui m'a passionné, qui m'a passionné et qui est comme une phrase que je mettrai en exergue comment dire, à tout ce que je peux écrire. Il dit, j'essaie d'entendre les rumeurs, la rumeur du monde. Et lorsque j'étais jeune écrivain, dit Hemingway, je l'entendais sans problème, c'était merveilleux, je la distillais et je faisais de cette rumeur mes livres, je nourrissais mes livres de cette rumeur. Et Dieu sait s'il a entendu la rumeur du monde. Mais il y a un moment où justement, il n'entend plus cette rumeur et c'est dramatique pour lui parce qu'il a fondé toute son écriture là-dessus. C'est quelqu'un, comme il y a l'écriture d'Hemingway, et c'est ça qui me fascine. Il faut jamais oublier qu'Hemingway est d'abord un journaliste. C'est un journaliste notamment de guerre. Et il applique à la lettre les conseils que donnait Kipling, qu'il cite souvent, l'écrivain Kipling, qui disait à un jeune écrivain, procurez-vous vos faits, puis déformez-les. C'est exactement ce que fait Hemingway. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'ailleurs, quand vous prenez certains articles qu'il a écrits et comment il les a transformés pour en faire certains chapitres de ses romans. Comment il s'est nourri de cette réalité pour transformer ce qu'il a vécu, ses faits, en littérature. Donc il a transformé ses faits et il en a fait de la littérature. Et je trouve que ça, c'est vraiment la grande nouveauté de son style. C'est quelqu'un qui a toujours cherché, dit-il, à désentimentaliser la littérature américaine de son temps. Il y a des dialogues naturels, très vifs. Ça, c'est très nouveau pour son époque, et je trouve que ça tient formidablement bien la route. Lorsque vous lisez, par exemple, aujourd'hui, Au-delà du fleuve et sous les arbres, qui est un livre qu'il a écrit en 50, qui a été massacré par la presse, mais on voit la modernité du livre dans les dialogues, dans ce qui se passe entre les personnages. Il n'y a pas de pathos, c'est ce qu'on appelle une littérature à l'os. Il y a une vivacité, une rapidité, moi qui me touche, une modernité qui me touche beaucoup.
Oui. Et donc, bien sûr, on voit l'homme, l'écrivain, mais il y a aussi dans ce livre, Gérard de Cortance, un autre personnage important, c'est sa quatrième femme, Mary Welsh. Quel a été son rôle et en quoi est-elle importante ?
Elle est très, très importante. C'est la quatrième femme. La première, c'était Ada Richardson. Ensuite, il y a eu Pauline Pfeiffer, Martha Gellhorn, elle est journaliste. En 1944, à Londres, il croise Mary Welsh. Ça devient son amante. Il se marie en 1946. C'est la personne avec laquelle il a vécu le plus longtemps, 17 ans. C'est une ancienne collaboratrice du New Times. Et c'est tout sauf une petite personne fragile qui n'existe pas, qui sera à côté du grand homme. Il y a une sorte de... Ils sont en permanence l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Ils se soutiennent, ils s'aiment, ils se détestent. Ils forment un vrai couple. Et ça m'intéressait aussi d'écrire sur ce couple et de faire de Mary Welsh un personnage important du roman, ce qu'elle a été dans sa vie et dans la vie d'Hemingway. Ce n'est pas uniquement un livre sur les derniers jours d'Hemingway, c'est aussi un livre sur ce couple, sur comment le temps passe sur un couple, comment le temps peut user un couple, et en même temps comment le couple peut comment dire survivre à cette usure du temps.
Oui.
C'est un livre qui mélange à la fois les grandes rumeurs du monde, dont parle Hemingway, et en même temps des choses beaucoup plus intimes, nostalgiques. Vous savez, c'est Virginia Woolf qui parle de ces petites allumettes éclairées dans le noir que constituent les petits événements de la vie, mais qui fabriquent une vie. Une vie, vous avez des grands événements de l'histoire aussi, avec un grand H. Et puis, il y a des toutes petites choses quotidiennes. Et ça, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect de la vie et de Mary Welsh et de d'Ernest Hemingway.
Voilà, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans votre livre, Gérard de Cortance. Est-ce que vous allez promouvoir cet ouvrage dans des rencontres en librairie et dans des salons?
Je l'espère bien. C'est-à-dire que si on m'invite, je viens bien entendu en librairie, dans les salons. Là, je serai prochainement au Salon du Livre de Cabourg, où je vais dans une conférence sur Hemingway, mais je viens dans la mesure des disponibilités partout où on m'invite.
Eh bien, très bien. Et pour vous, quel est le rôle de l'écrivain dans notre société?
Oh là là, ça c'est une très vaste question, hein. Qui a beaucoup changé, évolué en fonction des temps. Par exemple, moi, j'ai été fabriqué, évidemment, par mon passé italien, par ma famille italienne, mais aussi beaucoup par mes amis écrivains latino-américains que j'avais lorsque j'étais très jeune écrivain à Paris, et qui m'ont vraiment donné le goût de la littérature. C'était Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa et Julio Cortázar. C'était vraiment mes trois amis. Et vous savez, l'écrivain latino-américain, dans les années 70, c'était une vigie, c'était l'écrivain qui luttait contre les dictatures en Amérique latine. L'écrivain en France, Victor Hugo, joue un certain rôle, Lamartine un autre. Je n'ai pas le sentiment que l'écrivain aujourd'hui, et en tout cas dans la France d'aujourd'hui, est un rôle aussi important. Mais si tant est qu'il ait un rôle, je pense que c'est sans doute un rôle d'éveilleur, des consciences, peut-être d'empêcheur de tourner en rond. comment dire, de décryptage de son temps. Enfin, c'est quelqu'un qui aide peut-être les autres à regarder leur temps, peut-être à vivre aussi. Moi, je suis très touché quand je vais à l'étranger, par exemple, ou qu'un jeune homme ou une jeune femme me dit, vous savez, votre livre a changé ma vie. Et je me dis que là, le rôle de l'écrivain, on a un poids sur les épaules extraordinaire.
Oui.
C'est toujours très curieux, je trouve, de voir cette espèce de distance qui existe entre la nécessité qu'on a d'écrire, parce qu'on est, enfin, de naissance écrivain. Je veux dire, je ne pense pas qu'on devienne écrivain. Moi, je ne crois pas du tout, par exemple, aux écoles d'écriture, aux ateliers d'écriture. Je crois qu'on est avec ça. C'est une sorte de béquille. C'est tout à fait normal de passer sa vie à écrire.
Oui.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que vous allez trouver des lecteurs et des lectrices qui vont être intéressés, qui vont être bouleversés, qui vont être gênés, qui vont être, comment dire, titillés, qui vont être intéressés, je ne sais pas, parce que vous écrivez. Et je trouve que c'est pour moi une grande question.
Mais en tout cas, on voit que vous avez une carrière importante, puisque je disais, vous êtes romancier, essayiste, traducteur, dramaturge. Vous avez publié plus de 90 livres traduits en 25 langues. Justement, c'est en cela que vous aimez l'amour des mots, vous l'avez dit, et surtout, voilà, transmettre, faire découvrir de nouvelles choses à de nouveaux lecteurs.
Ah oui, ça c'est très important, vous savez, je n'aime rien tant que d'aller dans les lycées et collèges et inviter tous ces jeunes gens, ces jeunes filles et ces jeunes garçons comment dire, à la littérature. Et je leur explique des choses très simples en disant, vous savez, apprenez la langue française, d'abord, c'est une langue merveilleuse, et surtout, cette langue va vous aider. Enfin, la littérature, la culture, le maniement des mots vont vous aider à penser le monde et à penser votre vie. Donc, ne vous plaignez pas si, comment dire, les autres pensent à votre place, si vous n'avez pas appris le français, si vous ne lisez pas. C'est-à-dire que ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche, comme on pourrait le dire. Il faut absolument que ce soit vous qui preniez votre destin en main. Et la façon de prendre son destin en main, enfin, d'agir sur sa vie, justement, c'est de pouvoir mettre des mots sur sa pensée,
Oui.
sur ses idées, de développer une pensée du monde, de développer un raisonnement. Si ça ne passe pas par les mots, écoutez, l'homme a cette faculté extraordinaire d'avoir un langage. Ce qu'on appelle la double articulation, ce que n'ont pas les animaux. On a des mots avec une grammaire, une syntaxe, et on peut penser le monde et sa vie avec ça. Donc, je trouve que ça, c'est essentiel. Alors, c'est peut-être un des rôles de l'écrivain, justement, par ses livres, d'amener les lecteurs et les lectrices à penser par eux-mêmes. Au fond, l'écrivain est là pour nourrir les éventuelles pensées des autres.
Oui, c'est vrai. Et vous avez d'autres projets, Gérard de Cortance, peut-être un autre livre?
Oui, alors le prochain livre, ce sera un roman aussi où je m'attellerai à essayer de comprendre le vrai Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire, je décrasserai le Cyrano de Bergerac tel que la. On a fait une légende d'Edmond Rostand, qui est un personnage fabuleux, merveilleux, extraordinaire, mais qui n'a rien à voir avec le vrai Cyrano de Bergerac, qui s'appelait Savinien de Bergerac, sieur de Cyrano. Et celui-là, eh bien, c'était un savant qui écrivait des pièces de théâtre, qui vivait au moment de la Fronde, qui écrit des mazarinades, et qui était obsédé par par beaucoup de gens, comme beaucoup de gens de sa jeunesse, de son époque d'ailleurs, aristocrate, par les duels. C'était des gens qui passaient leur temps à se battre en duel. Et ça me fascine de voir, d'essayer de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre l'histoire de son temps, la Fronde, le Mazarinade, Richelieu, Mazarin, l'arrivée de Louis XIV, et puis ce qu'on appelait les libertins, les philosophes de l'époque, la montée de la littérature et du rôle de l'écrivain à l'époque, justement, et puis les gens qu'il a croisés, Cassandi, Molière. Voilà, j'ai essayé de laisser, comment dire, mon esprit divaguer autour de ce personnage que j'aime lire et relire.
Ah, très bien. Et puis donc, avant de retrouver Cyrano de Bergerac, on va découvrir les derniers jours de la vie d'Ernest Hemingway dans ce roman donc, qui s'intitule « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer » et c'est publié aux éditions Albin Michel. Un grand merci Gérard de Cortanze d'être intervenu sur Cité Radio pour nous parler de ce livre. On vous souhaite une très belle saison. Prenez soin de vous et à bientôt.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Retrouvez tous nos podcasts et toutes nos interviews illustrées sur citéradio.fr.